Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le numéro de cette semaine du magazine Pèlerin, daté du jeudi 13 juin dernier, consacre un grand dossier à la cathédrale de Chartres vue du ciel avec des photos spectaculaires qui ont scotché Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il en faut pas mal pour me scotcher, vous savez, après tant d'années consacrées aux belles choses. Mais en effet, ce que nous donnent à voir ces 6 doubles pages est magnifique et témoigne du travail admirable, je pèse mes mots, qui a été accompli à Chartres depuis quelques années maintenant.
La cathédrale, disiez-vous il y a quelques minutes, est en train de faire peau neuve.
Oui, et c'est une mue formidable à laquelle assistent les milliers de visiteurs qui, travée après travée, découvrent en ce moment cette architecture rendue à sa légèreté et à sa lisibilité d'origine. Il y a tant à dire sur sa majesté, la cathédrale de Chartres, et nous n'avons qu'une heure, alors surtout, ne perdons pas de temps.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il était une fois un petit garçon qui entretenait une amitié profonde, confuse, parfois difficile, avec une vieille, très vieille dame de plus de 800 ans. À l'époque où il apprenait à écrire, pour l'habituer à former les L et les B, on lui faisait recopier la phrase suivante « Les flèches de la cathédrale de Chartres sont visibles de loin ». Et de fait, il avait pu s'en rendre compte, car chaque fois que ses parents l'emmenaient en Normandie, il passait par Chartres et voyait se dessiner en effet de très loin dans la campagne beauceronne ces deux tours bien pointues d'inégale hauteur, comme un double phare aveugle sur l'horizon. Plus tard, pendant son service militaire sur la base aérienne de Chartres, elle le poursuivrait, ses flèches. Et pourtant, durant toutes ces années, il n'avait jamais obtenu qu'on le laissât approcher de la merveille. En compagnie de ses parents, il était passé donc très souvent devant et à chaque fois on lui disait « Nous sommes en retard, mais la prochaine fois, promis, on s'arrêtera pour la visiter ». Promesses en l'air. Enfin, voilà qu'un beau jour libéré de ses classes, le garçon devenu aviateur a eu le loisir d'aller passer sa première journée seul et tranquille à Chartres, quartier libre dans la vieille ville. Tandis que ses copains de chambrée se précipitaient vers les rues commerçantes et les bistrots du coin, lui s'est rendu tout droit à la cathédrale d'un pas presque haletant. Il vivait cela comme un rendez-vous de longue date et heureusement on peut dire qu'il n'a pas été déçu. En vérité, ce qu'il y a découvert lui a coupé le souffle. Des porches superbes, véritables broderies de pierre, des tympans sculptés, des rosaces, toute une forêt d'arcs-boutants au dehors, d'arbres, de colonnes, de colonnettes au dedans, des voûtes et des ogives, comme nulle part ailleurs et par-dessus tout, parvenu au cœur du monument dans l'ombre accentuée à l'époque par des siècles de crasse, de fumée, de suie qui en avaient obscurci les pierres et les jointures. La couleur, l'éclat coloré, la lumière éclatante de couleurs intenses de ces verrières géantes, véritables murs de verre étincelants, les fameuses verrières de Chartres. Ah, je vous laisse deviner l'identité du petit garçon devenu conscrit. Sachez en tout cas qu'il y a quelques semaines, il séjournait encore dans la région pour un week-end et a tenu, comment s'en étonner, à se rendre au lieu de ses anciens émois pour découvrir le résultat de ces restaurations dont on parle tant. Nouvelle émotion, plus forte que jamais, devant ces verrières bien plus claires et lisibles, bien plus lumineuses encore que jadis, devant ce narthex, ce cœur rendus à leur primitive beauté. Les pierres ne sont pas nues, non, elles ont été délicatement recouvertes de badigeons coordonnés qui les font paraître plus pures, plus ajustées encore. Elles ne sont pas blanches, non, mais ivoire, mais sable, mais cannelle, dans une symphonie d'ocre pâle des plus douces, d'apparence ductile et qui offre à l'ensemble unique des grandes verrières multicolores où domine l'outre-mer une monture idéale, une chasse de pierre à la façon d'un très très grand reliquaire. Vous savez, nous vivons dans une époque où malheureusement, et je sais que vous êtes nombreux, infiniment nombreux, à partager mon désarroi, une époque où les belles choses ont tendance à s'effacer un peu plus chaque jour devant une infinité de laideurs qu'on essaie de nous faire passer pour acceptables. Nous traversons des temps paradoxaux, où, disons-le, pourquoi toujours le taire, il est souvent difficile de s'extasier, de simplement se réjouir sans réserve. Eh bien, et c'est d'autant plus précieux que cela devient plus rare, le spectacle, certes encore incomplet, mais déjà radieux, la vision que nous offrent les brillantes restaurations de Chartres, cette féerie, croyez-moi, est un moment de joie vraie et de gratitude. Les clichés en lévitation de Stéphane Compoint dans la livraison du Pèlerin de cette semaine donnent une idée assez fidèle du choc que l'on peut ressentir. Mieux, elles donnent envie d'aller sur place pour ressentir le vrai choc, celui du voyageur, du fidèle, du badaud, du visiteur, du militaire ou bien du petit garçon qui, entré enfin dans le sein des saints, vient s'y emplir l'âme d'une perfection. Avant, on aurait pu dire que cette perfection, elle n'existait pas. Avant d'entrer, on ne l'aurait même pas cru possible.
La première fois que l'on vient, un homme nous tient dans ses mains, la tête haute sous les arches, tout comme un président qui marche. Il nous conduit devant l'autel pour nous faire bénir des statues. Nos mères ont mis leur plus beau voile pour entrer dans la cathédrale.
La cathédrale, Serge Lama sur Europe, un extrait de l'album symphonique enregistré en public avec l'Orchestre Philharmonique d'Île-de-France, Chartres, la cathédrale révélée. On en parle dans un instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Philippe Royer, journaliste en charge du patrimoine et des beaux-arts à Pèlerin, Stéphane Compoint, reporter photographe spécialisé dans la photographie aérienne, et Arnaud Timbert, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à l'Université de Lille. Franck.
Bonjour messieurs. Alors on peut dire, Stéphane Compoint, que ça n'a pas été tourpeau votre reportage à Chartres et que votre ballon un jour, je le sais parce que nous étions à Marseille ce jour-là et vous deviez être des nôtres, ça n'était pas possible car le ballon s'était envolé tout simplement.
Et oui, bonjour Franck. Et pour la première fois, ça fait bientôt 10 ans que je fais de la photo aérienne avec ce ballon. Et c'est pour la première fois, j'ai eu un problème très simple. Il y avait beaucoup de vent ce soir-là et le ballon s'est décroché à cause du vent trop important. Alors évidemment, c'est une perte financière, on peut le deviner, mais il y a aussi beaucoup de mise au point, beaucoup de détails qu'on peaufine jour après jour. Et donc c'est aussi une perte affective
quelque
part.
Et oui, bien sûr.
Un peu comme... Toutes trois personnes gardées, bien sûr, un peu comme un marin et son bateau.
Ah oui, bon, mais alors, en tout cas, il y a eu cet échouage. Alors, nous pouvons lancer un appel, hein, si vous avez trouvé un morceau. Ça doit être un morceau d'étoffe, parce que le ballon, évidemment, il a dû se déchirer entre-temps.
Oui, tout à fait. Ça ressemble maintenant un peu à une nappe blanche.
Oui, c'est ça.
Dessous, il y a une nacelle en carbone. La nappe fait 2 mètres sur 3, bien sûr. Si quelqu'un voit quelque chose d'étrange au fond de son jardin ou de son champ, qu'il n'hésite pas à appeler Europe 1, le magazine Pèlerin ou moi-même.
Heureusement, un grand nombre des clichés que vous aviez pris étaient sauvegardés. Et grâce à cela, on peut feuilleter ces magnifiques doubles pages que nous offre le magazine Pèlerin cette semaine. Alors, je signale aussi qu'il y a d'ailleurs un numéro hors série qui est en kiosque et qui restera plus longtemps en kiosque, qui permettra d'entrer davantage dans tous les détails de cette extraordinaire cathédrale de Chartres. Vous en avez photographié les extérieurs qui apparaissent évidemment sous cet angle comment pourrait-on dire, en lévitation en quelque sorte,
oui,
on est à mi-hauteur.
À mi-hauteur, ça me convient bien, la mi-hauteur, tout à
fait. Et puis vous avez photographié l'intérieur et notamment le cœur qui là apparaît que sous un jour tout à fait nouveau, c'est
oui.
Extraordinaire.
Alors c'est très intéressant le cœur, c'est vrai que le vitrail est quelque chose d'assez ingrat pour le photographe dans une cathédrale assez sombre comme elle l'était auparavant. Ils sont comme suspendus dans l'obscurité, c'est un espèce de monologue, on fait presque un travail de reproduction, c'est pas très créatif. Une fois le cœur restauré, avec toute cette lumière qui en ressort, on a vraiment un dialogue entre la pierre et le vitrail, et du coup, c'est aussi un dialogue photographique, et là, la partie composition du travail de photojournaliste est vraiment tout à fait intéressante.
Ce dossier est signé Philippe Royer. Merci d'être avec nous, Philippe. Alors, vous avez évidemment vous avez essayé de mettre en évidence les travaux de restauration qui sont menés depuis, on peut dire combien, à peu près 7-8 ans maintenant.
Depuis 2005-2006.
Oui, voilà, c'est ça. Et ce qui est important à souligner, pour ne surtout pas tromper nos auditeurs, c'est que les restaurations ne sont pas achevées à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire qu'on en est loin même.
Le chœur a été restauré, le chœur liturgique, le déambulatoire tout autour du chœur, le narthex, donc à l'entrée de la cathédrale. Il reste maintenant à restaurer le reste de la nef, les transepts, donc il y a encore beaucoup de travail, et je pense que l'achèvement complet est prévu ou prévisible pour la fin de la décennie, guère avant. Et puis il faut les moyens financiers.
Il était prévu que ça s'achève en 2016, a priori, mais
mais ça va durer plus longtemps, vous pensez?
J'ai peur que ça dure un ou deux ans de plus.
Oui. Ouais. On a hâte de voir le résultat final. Ça va être tout à fait... c'est déjà extraordinaire, hein, mais ça va être un vraiment tout à fait unique. Lorsqu'on a connu cette cathédrale de Chartres avant les travaux de restauration, on a presque peine à la reconnaître. Même les volumes ont l'air différents.
Oui, quand on rentrait dans la cathédrale, on rentrait dans une nef quasi obscure. On voyait juste le fameux bleu de Chartres, vous savez, qui scintillait dans l'air. Mais enfin, il fallait vraiment pratiquement 5 minutes d'accoutumance pour s'acclimater à l'obscurité. Ouais.
Et là, maintenant, c'est tout le contraire. La cathédrale est lumineuse et elle est plus intelligible aussi. On a l'impression qu'il est plus facile d'en lire les lignes architecturales de force. Elle est plus simple à voir, peut-être.
Oui, elle est plus simple. Et puis, on peut comprendre, comme jamais, en tout cas à Chartres, les intentions des bâtisseurs du Moyen-Âge au XIIIe siècle, où effectivement, là, elle apparaît dans son jus, dans son authenticité.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une grande partie des verrières ont été restaurées. Les vitraux sont tout propres, ce qui les rend d'autant plus lumineux. Alors, quelles étaient justement les intentions des bâtisseurs? C'est ce qu'en compagnie d'Arnaud Timbert, nous allons voir dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
L'ensemble orchestral et voyages sur Europe 1. Alléluia, messe de Chartres, Franck.
Alors cette cathédrale de Chartres est un des joyaux de l'architecture mondiale. Du reste, l'UNESCO ne s'y est pas trompé, qui dès 1979, lorsque l'institution établit sa première liste du patrimoine mondial, évidemment la cathédrale de Chartres fait partie de cette toute première liste. Quels sont les... Alors, évidemment, on a compris que l'endroit est sublime, on a compris l'incroyable qualité et la taille et la richesse de ces grandes verrières, etc. Mais on peut aussi s'interroger sur son architecture et sur ses spécificités. C'est ce que nous allons essayer de faire en compagnie d'Arnaud Timbert pour comprendre que cette cathédrale, au moment où elle est construite, est déjà en soi un peu différente, Arnaud Timbert.
Elle est déjà un peu différente, effectivement, puisque toute cathédrale est un ensemble de nouveautés multiples. Lorsqu'elles sont achevées, elles sont déjà démodées, tellement les choses vont vite,
très long,
l'innovation va vite. Sauf qu'à Chartres, ça dure 30 ans, quand même.
Ça, c'est incroyable. Donc, c'est, 30 ans
donc on a c'est
rapport à des cathédrales qui demandent plus d'un siècle de réalisation, au total, en tout
voilà,
cas.
Au total, avec les tours de façade, qu'il ne faut pas vraiment prendre dans la comptabilité, sinon, effectivement, on va très loin. Mais, en tous les cas, on a une cathédrale qui est construite rapidement.
D'un jet,
pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle ne fait pas table rase du passé, puisqu'elle est fondée sur la crypte de la cathédrale antérieure, la crypte du XIe siècle, de l'évêque Fulbert, pardon. Et par conséquent, le temps nécessaire à la mise en place des fondations, est absorbé. Et puis, il y a aussi un massif de façade du XIIe siècle, celui qu'on connaît tous, avec l'une des tours, et ce portail royal aux sculptures des années 1140, 1150, qui est un ensemble déjà présent. Donc, somme toute, il n'y a que la nef, le transept et le chœur à bâtir. Simplement la superstructure de ces trois espaces. Donc effectivement, ça va vite. Mais il y a aussi une organisation humaine du chantier qui est extrêmement bien réfléchie, de sorte à ce que ce chantier soit rapide et par conséquent aussi économique. Mais plus que cela encore, il faut que ce chantier soit symbolique. Parce que le problème du Moyen-Âge, le problème de l'homme du Moyen-Âge, c'est qu'il n'est pas du tout comme nous. Il n'accepte pas les ruptures historiques, même si sa notion de l'histoire est aussi très différente de la nôtre. Mais il n'accepte pas la rupture dans la continuité, on va dire, du temps. Parce que l'acte fondateur, d'une certaine manière, du temps, c'est Jésus. Donc s'il rompt avec cette continuité, il rompt avec l'essentiel, surtout dans une église qui est l'origine de toute spiritualité à ses yeux, qui est Jésus, l'homme fait verbe. Donc bien évidemment, il lui faut agir dans la continuité historique.
en respectant tout ce qui s'était fait avant. Et là, en l'occurrence, en remployant un certain nombre de techniques et d'habitudes qui étaient celles des grandes cathédrales romanes, tout simplement. Il y a encore cela sur le chantier de Chartres.
Alors, on pourrait tout à fait dire les choses de cette manière. Au-delà du remploi, de l'absorption de la crypte du XIe siècle dans l'œuvre du XIIIe siècle, donc de l'absorption quasi charnelle, matérielle, il y a la reprise de savoir-faire, de gestes, de formes, qui emprunte tout à fait à une période antérieure qui n'est pas du tout gothique. Donc la cathédrale de Chartres, elle est fantastique de nouveauté en termes d'écriture architecturale, en termes de style. Vous avez évoqué les vitraux en termes de forme, mais technologiquement parlant, c'est une cathédrale d'un archaïsme intentionnel, bâti avec des pierres monumentales.
C'est un archaïsme intentionnel, c'est-à-dire qu'on sciemment, délibérément, on avait choisi de la construire à l'ancienne, en quelque sorte.
On l'a construit à l'ancienne, mais d'un ancien qui est véritablement d'une grande subtilité, puisque le sens de l'ancien passe par le technique et non par le formel. Et bâtir avec des pierres monumentales, avec des agrafes de fer de 80 cm.
On a toujours utilisé, enfin depuis longtemps on utilisait les agrafes, mais elles étaient plus petites et moins nombreuses. Là il y en a partout, elles sont énormes.
Partout, elles sont énormes. Donc on a véritablement, par ces deux éléments, des pierres monumentales qui peuvent atteindre 3 mètres de long. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, même en partie haute. Des agrafes de 80 cm. Nous sommes devant une technologie, comme vous le dites, ancienne, qui remonte à la période antique. Et donc, un édifice qui n'est pas bâti avec la subtile poussée, contre-poussée que l'on admet à la période gothique, mais par la masse.
Voilà.
Donc, comme un temple antique.
Il en reste quelque chose. Il y a une forme de solidité, il y a quelque chose de chtonien dans cette cathédrale de Chartres qui se ressent peut-être et qui est sans doute lié à la technologie employée. On est effectivement à cheval, en quelque sorte, sur deux époques et sur deux savoir-faire. Il ne faut pas oublier que la cathédrale autrefois, elle était entièrement peinte, intérieur-extérieur.
Elle était entièrement peinte. Ça, c'est l'une des belles découvertes de ce chantier de restauration. Donc, on a une idée parfaite, vous l'avez évoqué de la polychromie intérieure, mais cette polychromie était aussi présente à l'extérieur, juste et uniquement sur les parties hautes. Ce qu'il faut imaginer, avec facilité à Chartres, parce que Chartres est dans son tissu urbain médiéval encore, quasiment, que cette cathédrale, vous l'avez évoqué vous-même, on la voit de très loin, mais on ne voit pas les parties basses de très loin, on ne voit que les parties hautes. Donc là, d'avoir revêtu l'extérieur d'enduit, de polychromie sur des composants géologiques, évidemment, la lumière de la nuit et du jour, ça brille. Donc nous sommes dans l'image même de ce qu'est toute église au Moyen-Âge. C'est un phare dans l'obscurité. L'église donne la lumière. Elle reçoit la lumière, mais elle produit de la lumière aussi. Et la lumière, c'est la cathédrale, c'est l'église de Saint-Jean, d'une certaine manière, qui éclaire dans les profonds des ténèbres, n'est-ce pas? Donc ce revêtement, véritablement, c'est pas une découverte. On savait que beaucoup d'églises étaient peintes dans le nord de la France, mais pour une cathédrale, c'est différent. D'autant qu'elle a été peinte deux fois à l'extérieur également. D'où l'importance esthétique de ce phénomène plastique pour le Moyen-Âge. Mais c'est au-delà aussi. C'est que le revêtement, c'est de la couleur, et la couleur, c'est de la lumière. Pour l'homme du Moyen-Âge.
Couleur, lumière, nous y venons dans un instant, et puis toutes ces formes extraordinaires qu'a su si bien capter l'objectif de Stéphane Compoint. Dans un instant, nous allons revenir aussi sur l'histoire de cette cathédrale et sur le grand incendie de 1194, de quoi tout va partir.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Spécial Chartres aujourd'hui sur Europe 1, la cathédrale est en train de faire peau neuve, alors nous vous proposons d'assister à la mue du siècle.
Et oui, on voit très bien sur les photos de Stéphane Compoint dans ce numéro de Pèlerin, on voit très bien la différence entre les parties déjà restaurées et celles qui ne l'ont pas été. On voit les agrafes dont on parlait tout à l'heure et puis on voit moult détails. Je pense à ce labyrinthe évidemment que vous avez photographié. Ça, vous n'êtes pas le premier à le faire, Stéphane Compoint.
Bien sûr, il est très célèbre. Les visiteurs marchent sur le labyrinthe qui fait plusieurs centaines de mètres. Je ne sais plus exactement. Peut-être que Arnaud Timbert pourra vous dire le chiffre du cheminement. Il est libre de chaises uniquement le vendredi.
Ah oui, sinon, les chaises le cachent, en fait.
Sinon, on ne le voit pas très bien. Donc, bien sûr, j'étais en place un vendredi matin et j'ai fait ce cliché.
Et il n'y a pas que vous, parce qu'on voit ces personnes qui font comme une sorte de pèlerinage, hein, qui parcourent le labyrinthe, Philippe Royer.
Oui, tout à fait. Très, très fréquemment, le vendredi, en tout cas. Bon, c'est un labyrinthe qui impressionne. Les chiffres donnent le tournis, hein, si on peut dire. Hein. 13 mètres de diamètre, 261 mètres de déroulé.
Pour ceux qui ne seraient pas du tout, il faut dire que ce labyrinthe, il est simplement dessiné au sol. Hein. Il faut préciser.
Par les pavés. Oui. Il est authentique, il date du XIIIe, hein, date de la construction, puisque le pavement n'a jamais été refait. Effectivement, il était au centre d'une liturgie pascale. Il l'a été pendant très longtemps, puisque l'officiant, au moment de Pâques, parcourait l'entièreté du labyrinthe qui symbolise la traversée des épreuves, hein, jusqu'à la résurrection. Et on a même retrouvé des textes qui font état de véritables chorégraphies entre l'assemblée autour du labyrinthe et le prélat qui faisait ce cheminement et qui lançait à l'assemblée une pelote de fil rappelant le fil d'Ariane, avec une assimilation entre Thésée et Jésus et le Minotaure et le diable.
Mais oui, il y a quelque chose de païen peut-être aussi dans les origines de tout ça. Alors c'est notre séquence Les Piliers de la Terre. Je disais à l'instant que tout était né d'un grand incendie. On est en 1194 et là, il va falloir reconstruire la cathédrale, Arnaud Timbert.
Alors on est en 1194, le 10 juin, et un incendie éclate et ravage la cathédrale antérieure, la cathédrale du XIe siècle, qu'il faut imaginer charpentée, etc., pleine d'instruments, d'objets et de mobilier liturgique, et tout ceci s'enflamme. Et les chanoines se précipitent dans la crypte pour protéger les reliques insignes offertes par Charles Chauve à Chartres, à savoir le voile de la Vierge.
Alors oui, on va revenir sur ces reliques très importantes, sur ce voile de la Vierge dans un instant.
Et ils ressortent 3 jours et 3 nuits après cet incendie. Et donc là, il y a effectivement un miracle. Un fait qui est identifié, puis interprété. Et c'est un miracle interprété comme la volonté de la Vierge d'avoir une nouvelle, une plus grande, une plus belle église. Et immédiatement, d'une certaine manière, immédiatement, les travaux sont entrepris. Donc là, on est devant un fait tout à fait, devant un miracle engagé. Devant un incendie tout à fait bienvenu. On est devant une situation qui renvoie tout à fait à la problématique de la construction de ces grandes cathédrales. Parce que ces grands monuments, ces grandes cathédrales gothiques, il faut les imposer dans un tissu urbain préexistant, qui remonte à la période gallo-romaine, qui est dense, très dense, et qui vit autour de la cathédrale. Ce sont les chanoines, souvent avec leurs femmes, leurs enfants. Donc il faut détruire ces
maisons. Il faut lui faire de la place à la cathédrale.
Il faut faire de la place.
Oui.
Et les chanoines et les évêques ne sont pas souvent d'accord pour ces grandes entreprises qui, de toute façon, va coûter aux chanoines, mais rejaillir la prestige, rejaillir sur la seule figure de l'évêque.
Oui.
Donc, bien évidemment,
il y a des conflits, c'est terrible tout ça, bien sûr.
Il y a tension sociale, comme nous en connaissons tant. Et donc, mais c'est exactement la même chose. Donc là, le miracle, il tombe à point. L'incendie, il tombe à point. Et on est en droit d'imaginer que ce miracle est très engagé, puisque une année après, on a des mentions de dons qui sont faits sur l'autel.
Vous ne seriez pas en train de nous
de
dire que tout ça a été un petit peu organisé en sous-main
Très bien organisé. Très bien organisé, très bien calculé. Et effectivement, on sait qu'un an après, il y a un don qui est fait sur l'autel de la Vierge. Sur l'autel de la Vierge. Cela signifie bien que la cathédrale de Fulbert n'est pas parti en poussière, puisque l'autel de la Vierge dans une cathédrale dédiée à Notre-Dame ne peut être que l'autel majeur. Et le vitrail de la Belle Verrière, qu'on connaît tous, il provient certainement aussi du cœur de la cathédrale antérieure.
De l'ancienne cathédrale.
Nous sommes devant un incendie qui a été monté en épingle pour faire venir des dons, pour justifier une entreprise temporelle.
Pour susciter l'élan collectif, en fait.
Une caution surnaturelle et avoir l'élan collectif.
Alors, beaucoup, beaucoup plus tard, sous le règne de Louis-Philippe, il y aura un autre incendie qui, lui, va s'attaquer à la charpente. C'était des ouvriers qui étaient là, qui étaient en train de restaurer.
Alors, la couverture de la cathédrale de Chartres était en plomb, comme tout édifice majeur, et des ouvriers qui réparaient ces toitures en plomb, forcément avec des braseros, hein, donc in situ, et quelques flamèches se sont intégrés dans la charpente et ont pris feu. On mit la charpente en flamme.
Ce qui a permis de faire une charpente très moderne, finalement.
Ce qui a permis deux choses. Ce qui a permis une charpente extrêmement moderne, une charpente magnifique de technicité et de forme, qui est une charpente en fonte, la première charpente en fonte des monuments historiques. Plus tard, on choisira plutôt le béton, hein, la charpente de la cathédrale de Reims, de Noyon, et en partie de la collégiale de Saint-Quentin. Ça, c'est une première chose. C'est une histoire qui continue à s'écrire matériellement et technologiquement dans ce monument. Et là, l'autre chose, c'est que l'incendie, comme on en a connu tant au Moyen-Âge de ces grandes cathédrales et de ces charpentes, l'incendie a suscité au XIXe siècle des réactions et des gestes de la part d'hommes qui sont en fait subordonnés au monument et qui nous ont permis, nous, historiens, de comprendre les gestes des hommes confrontés à ce type d'événement au Moyen-Âge.
Oui, quand on refait les choses.
Quand il n'y a plus de charpente, il faut protéger.
Eh oui.
Comment faire ? Donc ils ont percé les voûtes, ils ont mis des enduits étanches, voire des tables de plomb pour faire écouler les eaux. Et comme au Moyen-Âge, on a retrouvé ces trous et compris les trous qu'on voit ailleurs.
Un mot, Philippe Royer, sur cette relique majeure dont on parlait, ce voile de la Vierge qui a justifié tant de pèlerinages depuis le Moyen-Âge.
Bah écoutez, il a été donné à Chartres par le petit-fils de Charlemagne.
Mm-hmm, par Charles Chauve.
Charles Chauve. Et Charlemagne lui-même en avait reçu don par l'empereur de Byzance pour l'avoir aidé à contenir les Arabes, hein, notamment mm-hmm. à Jérusalem. Et cette relique a été donnée et à partir de ce jour, Notre-Dame de Chartres est devenue un sanctuaire marial qui est très important.
Alors on totalement dédié à la Vierge Marie, c'est
totalement
très
dédié de la crypte au vitrail Notre-Dame de la Belle-Verrière. Alors on a longtemps pensé que c'était, on l'appelle voile, mais on a longtemps pensé que c'était la chemise de la Vierge qu'elle avait portée pendant l'attente du Christ. Et la châsse a été ouverte parce qu'elle était en mauvais état au début du XVIIIe et ils ont aperçu que c'était un voile et non pas une chemise.
Donc il a fallu longtemps pour voir exactement ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette fameuse chasse. C'est très important de souligner cette dimension mariale, cette dévolution de la cathédrale au culte de la Vierge Marie, lorsqu'on sait que c'est ici même qu'a été sacré, et ça c'est un cas tout à fait rare dans l'histoire de France, qu'a été sacré Henri IV qui venait de se convertir, qui avant avait été protestant. Vous imaginez l'importance du symbole. Nous venons justement dans un instant au récit de ce sacre d'Henri IV.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur le sacre d'Henri IV.
Vous savez que la plupart des rois de France ont été sacrés à Reims, évidemment. Eh bien, pas Henri IV, le Navarrais qui ne faisait rien comme les autres. J'ai envie de dire et pour cause, puisque les circonstances de son avènement étaient si troublées qu'elles l'ont obligé à tout réinventer à mesure. Henri IV a bien été sacré ici, à Reims. Il faut vous dire que 6 ans plus tôt, on est en mai 1588, c'est à Chartres déjà que Henri III fuyait les Parisiens qui s'étaient soulevés contre lui. C'est là qu'il s'était arrêté, c'est là qu'il avait reçu un émissaire de son beau-frère, le roi de Navarre. On a un peu l'impression d'une sorte d'ironie de l'histoire, puisque après le meurtre d'Henri III par Jacques Clément, Henri IV devient, pour des raisons tout à fait de lignage, hein, il était le successeur désigné de toute façon d'Henri III, il devient le roi de France. Il va lui falloir naturellement défendre cette royauté contre tous ceux qui s'y opposent, à commencer par les ligueurs, bien entendu. Je ne vais pas entrer dans tout le détail des actions militaires. Il faut dire en tout cas que la ville de Chartres va jouer un rôle non négligeable dans ces opérations. L'objectif stratégique d'Henri IV depuis le début dans cette campagne, c'est la Normandie, et notamment la Normandie, pour disposer des ports de la Manche et de permettre l'arrivée de ce contingent anglais qu'avait promis la reine Élisabeth. Simplement, le nouveau roi, hein, qui n'est pas encore sacré, donc Henri IV aurait pu s'installer à Rouen, ça n'est pas possible. Rouen est une ville irréductiblement catholique et qui fait obstacle. Alors il va faire porter dans un premier temps l'effort sur Chartres. On est là en 1591. Et dans les années 1591-93, c'est Mantes qui sert de capitale provisoire, mais Chartres tient également un rôle très important, notamment dans tous les actes politiques du roi. C'est à Chartres qu'Henri réunit son conseil, qu'il convoque l'assemblée du clergé chargé de protester contre les bulles d'excommunication, car évidemment, Rome ne l'a pas laissé gentiment s'installer sur le trône de France et le pape a voulu frapper le royaume d'interdit. Le roi a très tôt annoncé son intention de se convertir à la foi catholique. Les événements de 1593 vont en quelque sorte précipiter les choses. Le duc de Mayenne a convoqué les états généraux du royaume à Paris pour procéder à l'élection d'un autre roi. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver, comme ça avait été le cas au moment de la succession de Charles VI, on risque de se retrouver avec deux rois en France. Depuis Chartres, Henri IV suit attentivement tout ce qui se passe. Il renouvelle son serment de vouloir changer de religion. Il précise sa promesse et la promesse de se faire instruire, comme on disait, c'est-à-dire instruire dans la foi catholique. Les députés sont assez sages, mais on remarquera, faudrait faire un jour, tiens, l'histoire des états généraux, ce serait passionnant. Les députés sont généralement assez sages dans ces grands états et ils vont, plutôt que d'élire un nouveau roi contre Henri IV, ils vont lui envoyer des émissaires. Ce seront les conférences de Suresnes auxquelles évidemment Henri IV a de son côté envoyé lui-même des émissaires. Le 10 mai, la décision du roi est prise. L'instruction puis la conversion auront lieu. Elles auront lieu où ? Dans l'abbatiale de Saint-Denis, lieu emblématique entre tous, c'est la nécropole des rois de France. Cette conversion elle a lieu le 25 juillet 1593. Et pourtant, la cérémonie de Saint-Denis, historiquement on appelle ça l'abjuration, n'est pas suffisante. Il faut au roi l'onction du sacre. Et l'onction du sacre, c'est à Reims, bien entendu, qu'on l'obtient. Sauf que Reims est une ville absolument interdite à Henri. Elle est tenue par les ligueurs. Alors, Henri IV n'a pas tellement de choix. Il ne dispose ni de Paris ni de Reims. On a vu qu'il avait Saint-Denis. Alors, Henri IV pourrait se faire sacrer à Saint-Denis, ce serait une possibilité, d'ailleurs il y a songé. Sauf que quelques mois après la première cérémonie de Saint-Denis, la situation évolue largement en sa faveur. On peut dire que le fondateur de la dynastie Bourbon, que Henri dispose maintenant d'un soutien massif dans une grande majorité de l'opinion, et nous dit Jean-Pierre Bablon, le moment est venu, la ville est choisie, ce sera Chartres, illustre cathédrale, lieu sacré placé sous la protection de la Vierge Marie, nous venons de le voir, sanctuaire auquel Saint-Louis s'est particulièrement intéressé, comme en témoigne la Grande Rose du transept nord. Charles est en outre la grande ville qui jouxte les biens de la maison de Bourbon-Vendôme, dont Henri IV est issu. La chapelle de Vendôme, élevée par son ancêtre Louis en 1417, se dresse toujours au flanc sud de la cathédrale, et pour l'onction du sacre, il faut l'huile sainte que l'on mélange aux crèmes liturgiques, or l'ampoule miraculeuse de Saint-Rémy est toujours conservé à Reims. Fort heureusement, nous dit Bablon, on signale à l'abbaye de Marmoutier une autre ampoule miraculeuse, plus ancienne encore, puisqu'elle remonte à Saint-Martin, l'apôtre des Gaules, et que Louis XI avait demandé qu'on lui apportât sur son lit d'agonisant. On a le lieu, on a le symbole, le sacre va pouvoir prendre place.
Sur Europe 1 de la maîtrise Saint-Léonard de Fougères.
Le dimanche 27 février 1594, dès 3h du matin, il faut imaginer une foule qui se presse aux portes de la cathédrale. Et pourtant, cette foule, elle ne va pas voir grand-chose, puisqu'évidemment, il faut bien comprendre que le chœur, à l'époque, est entièrement fermé. Et il y a cette clôture du chœur qui existe toujours, même si elle a été remaniée depuis. À l'époque, il y avait aussi un grand jubé qui interdisait à la foule d'assister à la cérémonie elle-même. Le roi entre dans la cathédrale à 9h30, presque 10h. Il parcourt la nef, il pénètre dans le chœur où l'attend l'évêque de Chartres qui est assis. Le chœur cache la cérémonie aux yeux des fidèles. Le roi est d'abord invité à prononcer le serment solennel et puis c'est le rituel de l'adoubement du roi avec les éperons et l'épée et puis les onctions du sacre en tant que telles faites sur le corps du roi à travers les ouvertures de la chemise avec ce mélange donc de crème épiscopale et d'huile de la Sainte-Ampoule de Marmoutier en l'occurrence. On remet au roi la tunique du sous-diacre, la dalmatique du diacre, le manteau royal représentant la chasuble du prêtre, et puis les gants, l'anneau, le sceptre, la main de justice. L'évêque enfin pose la couronne sur sa tête, tandis que les 12 pères y mettent la main et engagent ainsi leur responsabilité à jamais. Alors ensuite, on conduit le roi par les degrés, c'est-à-dire les escaliers qui mènent au sommet du jubé. Il va enfin pouvoir apparaître à la foule, et la foule crie, après que l'évêque a dit que le roi vive dans l'éternité, la foule crie « Vive le roi, vive le roi !» tandis que les héros d'armes, vous savez, jettent des pièces d'or et d'argent à la foule. À mon avis, elle n'est pas très concentrée, cette foule, en tout cas pas sur ce qui est en train de se passer. La messe solennelle peut commencer, messe à laquelle Henri IV va communier. Et oui, maintenant il est bon catholique. Le roi par la désignation divine et le roi par l'hérédité du sang. Henri IV est à ce jour roi de France. Il a été sacré, il a reçu l'onction.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts, un beau pré de vastes cales, des haubans et albâtres. Prenez une cathédrale, haute en ciel et large au ventre, une cathédrale à tendre de clins phoques.
Jacques Brel sur Europe 1 avec la cathédrale magnifique.
Une cathédrale haute en ciel et large au ventre, c'est tout à fait le cas de Chartres, bien entendu. Nous avons en ligne la responsable des relations extérieures du Centre international du vitrail de Chartres, qui est également chargée de cours à l'école du vitrail et du patrimoine à Chartres. C'est Félicité Lagier. Bonjour et merci de nous avoir pris au téléphone. Alors, vous régniez, si je puis dire, sur le plus bel ensemble de vitraux du monde, disons.
Et effectivement, nous avons plus de 150 verrières datant pour la plupart des 12e et 13e siècles, 2000 mètres carrés qui nous racontent toute la pensée théologique du Moyen-Âge, effectivement.
Ah oui, on peut dire que c'est un immense livre. Il faut savoir lire les vitraux d'ailleurs, il y a tout un sens, il y a une histoire qui est racontée, bien sûr.
Oui, il y a un sens de lecture qui va du bas vers le haut, donc on s'élève de la terre vers le ciel. Il y a un langage également qui permet d'identifier le message, parce que la couleur, elle n'est pas la choisie au hasard, on représente les bons personnages en deux ou trois couleurs, et les méchants, ils sont toujours représentés en monochromie, en une seule couleur.
On parle toujours du bleu de Chartres, et comme le faisait tout à l'heure remarquer Philippe Royer, c'est la teinte qui ressort le plus lorsqu'on se promène et qui va littéralement modifier l'atmosphère de la cathédrale. Mais il n'y a pas que du bleu à Chartres, évidemment.
Il n'y a pas que du bleu. Alors le bleu, il était resté préservé de la corrosion du vert. Donc on ne voyait plus le rouge qui est la couleur du paradis et du ciel. On ne voyait plus que le bleu, et le fameux bleu de Notre-Dame de la Belle Verrière, qui est un bleu cobalt du 12e, qui est resté très lumineux parce qu'il était préservé de la corrosion du verre grâce à sa composition chimique particulière.
C'est Michel Pastoureau qui a beaucoup travaillé sur la symbolique des couleurs au Moyen-Âge, et c'est très passionnant évidemment de voir ce qu'il en est dans toutes ces verrières. Alors, vous qui êtes au contact même de ces trésors qu'on a tendance trop souvent à voir de loin et dans leur ensemble, vous en connaissez les détails, et ces détails, ils sont souvent très pittoresques, ils nous apprennent énormément de choses sur le quotidien de ceux qui ont bâti ces verrières.
Oui, parce que nous avons plus d'une quarantaine de représentations de métiers sous, surtout au bas des verrières, qui racontent la vie du petit peuple.
Et oui.
C'est une exaltation du travail, mais le travail pour sa sanctification, pour la sanctification des personnes. On se basait sur le psaume 127, tu te nourriras du travail de tes mains et tu seras heureux et prospère. Mais il fallait que le travail fût bien fait, sinon effectivement on se faisait taper sur les doigts.
Alors évidemment, on a parlé tout à l'heure de la cathédrale de Saint-Jean, on a évoqué la Jérusalem céleste et Saint-Augustin. D'une façon plus générale, il y a quelque chose de très musical dans la thématique ornementale de la cathédrale. Vous avez relevé de nombreux instruments de musique d'ailleurs sur les verrières.
Près de 313 représentations d'instruments de musique, pas seulement dans le vitraux mais aussi dans la sculpture.
Et oui.
Et nous avons en Chartres une association, l'Instrumentarium de Chartres, qui a fait reproduire une vingtaine d'instruments de musique qui servent pour de la musique médiévale. C'est très rare, la vraie musique médiévale. Xavier Terrasse a d'ailleurs dispense des cours à notre école où on utilise ces instruments refaits grâce au soutien de la mairie de Chartres. Également.
On possède encore le savoir-faire des maîtres verriers de Chartres aujourd'hui, Félicité Lagier.
Oui, les maîtres verriers d'aujourd'hui excellent dans cet art. La France possède à elle-même le plus grand patrimoine en vitraux trop. Les maîtres verriers français sont effectivement tout à fait capables de reproduire et de continuer cette tradition plusieurs fois séculaire.
Eh bien, je n'ai qu'un mot à vous dire. Merci de continuer à la faire vivre, cette tradition qui éblouit le monde entier. Merci beaucoup, Félicité Lagier. Vous les avez photographiés de très près aussi, Stéphane Compoint, ces vitraux. Ça ne doit pas être facile à photographier. Après tout, vous travaillez, vous, sur et par la lumière. Et là, d'un seul coup, cette lumière transcendée, il faut que vous la rendiez. C'est pas évident.
Non, mais j'essaye de provoquer une surprise visuelle. Dans une cathédrale, vous avez toujours le regard vers le haut quand êtes piéton.
Là, et on fait l'inverse. Là.
Et moi, j'essaye de faire l'inverse et de transformer, j'allais dire, la hiérarchie des volumes. Et donc, cette surprise visuelle, elle est au service de l'information. On fait de la presse, mais elle est au service aussi d'une composition. Et comme je disais tout à l'heure, le fait que notamment l'intérieur de la cathédrale, notamment le chœur, soit subitement très lumineux, permet un travail de composition tout à fait passionnant.
Pèlerin donc nous offre cette cathédrale de Chartres vue du ciel, des photos inédites et exceptionnelles en partenariat avec Europe 1. C'est dans le magazine Pèlerin de cette semaine, celui qui est en kiosque depuis jeudi dernier le 13. Et puis alors, j'étais un peu vite en besogne tout à l'heure parce que vous m'avez passé ça en entrant dans le studio, donc je n'avais pas encore eu le temps d'y jeter un œil très précis. Et j'ai annoncé un numéro hors série, mais alors le numéro hors série de Chartres, il viendra sans doute un jour. Pour l'instant, celui qui est en kiosque, il concerne la cathédrale de Bayonne vue du ciel, avec là encore des photos inédites exceptionnelles, qui sont des photos de Stéphane Compoint, des photos qui ont été réalisées toujours grâce à cette technologie de l'appareil emporté à bord d'un ballon. Merci beaucoup à tous les trois. Il y aurait eu encore tellement à dire sur la cathédrale de Chartres. Je sais que nos auditeurs sont très attentifs à chaque fois qu'on parle de ces trésors du patrimoine. On aura l'occasion d'en faire d'autres, peut-être même d'aller en faire in situ, comme ça a été le cas un certain nombre de fois. Rappelez-vous notamment notre promenade à Notre-Dame de Paris au tout début de l'année. Il y en aura d'autres dans l'année qui vient, évidemment. Merci messieurs de nous avoir fait rêver sur ce qui reste, qu'on le veuille ou non, un des plus beaux monuments de notre pays.